exprimée par le père Philippe Saint-Joseph, le 23 janvier 85.
Nous avions commencé au début de l'année à parler de l'Eucharistie. J'ai envie maintenant de nous préparer à la fête du 2 février, de regarder le mystère du sacerdoce. Ça nous permettra de prier davantage pour nos deux frères et pour les diacres. Et puis c'est un grand mystère sur lequel on doit revenir constamment. Je crois que c'est dans l'Église d'aujourd'hui, dans cette Église qui a été très secouée, qui continue d'être secouée, un des aspects sur lequel on doit être très attentif. Et sans doute la famille et le sacerdoce. Les deux sources de fécondité, étant donné que la grande attaque du démon, ouverte et sournoise, c'est toujours ce mystère de fécondité. Rappelez-vous le chapitre 12 de l'Apocalypse. Soyez attentifs à toutes les idéologies athées depuis 130 ans, 140 ans. C'est toujours le point de vue de l'efficacité qui passe en premier et qui étouffe l'amour. Et la fécondité relève de l'amour et de la plénitude de l'amour. Et de fait, il faut bien reconnaître, les deux sources de fécondité, c'est la fécondité fondamentale, cette alliance première de Dieu avec les hommes. Cette alliance originale, puisque à l'égard des anges, elle n'existe pas. Et que sans doute Dieu a créé les hommes pour qu'il puisse y avoir cette alliance. Que le mystère de la très sainte Trinité soit comme reflété dans le mystère de la famille, source de fécondité, de cette fécondité selon la chair et le sang, mais fécondité aussi dans l'amour, puisque cette fécondité selon la chair et le sang est une conséquence de la fécondité de leur amour, de l'amour du père et de la mère, de l'époux et de l'épouse. L'amour plénier est toujours fécond. Il y a une fécondité dès qu'il y a une plénitude d'amour, et d'un amour véritable. Un amour captatif n'a pas de fécondité. Tandis qu'un amour oblatif, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, a une fécondité, c'est-à-dire l'amour plénier, l'amour spirituel, l'amour personnel, est fécond. Il a une fécondité, c'est-à-dire qu'il appelle un plus grand amour et il permet un plus grand don. Tandis qu'un amour captatif est toujours rival d'un véritable amour. Et Dieu a sans doute voulu créer le monde physique pour que par la matière, par le corps, Dieu puisse faire qu'il y ait des sources de vie, des sources créées de vie. Dieu est la source première de toute vie. Et pour ceux qui croient, on sait que cette source de vie c'est la fécondité même qu'il y a en Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a comme un reflet. Dans la fécondité selon la chair et le sang, il y a une bénédiction de Dieu. Regardez bien la Genèse. Chaque fois que Dieu bénit même les animaux, multipliez-vous. Chaque fois que Dieu multipliez-vous, c'est comme quelque chose de très particulier. Et lorsqu'il s'agit de l'homme, il y a cette bénédiction porte sur le mystère de la fécondité. Et c'est vraiment l'alliance première et fondamentale. C'est pour cela que quand cette alliance, comme aujourd'hui, est atteinte, elle est atteinte de multiples manières, et on doit être très attentif vis-à-vis de toutes ces atteintes, de ce que représente cette alliance fondamentale de Dieu avec les hommes. On peut dire que lorsque cette alliance est atteinte, on est en présence de tremblements apocalyptiques. Je crois qu'on peut dire que toutes les recherches d'aujourd'hui, au point de vue génétique, toutes les transformations génétiques, toutes ces recherches de fécondité artificielle, de toutes ces manières de pousser le plus loin possible l'investigation et la technique dans ce domaine-là, très souvent, mais un primat d'efficacité sur l'amour. Et c'est peut-être là où on touche le plus, hein, fondamentalement, la grande lutte. La grande lutte contre Dieu et l'homme est à ce niveau. Et c'est quelque chose de fondamental, c'est par là qu'on détruit la famille. Et c'est la destruction de la famille qu'il y a derrière. On doit être très attentif à cela. Le Saint-Père nous le demande. Et puis, il y a une autre source de fécondité, qui est la fécondité du sacerdoce du Christ. Le Christ à la croix, en tant qu'il réalise son œuvre sacerdotale, principale, plénière, le Christ à la croix est revêtu de toute l'autorité du Père. Il est source d'une vie nouvelle. Il est source de l'Église. Il est Père. Le sacerdoce du Christ est paternel. Il ne faut pas l'oublier. Il est paternel parce que Jésus à la croix est revêtu de toute l'autorité du Père. Son sacerdoce est le sacerdoce du Fils bien-aimé, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, mais il a une autorité tout à fait spéciale qui est l'autorité même du Père. Et c'est très important de comprendre qu'il y a cette source nouvelle de fécondité spirituelle et divine à la croix dans le sacerdoce du Christ. Et nous savons que ce sacerdoce, source de fécondité, va avoir deux grandes orientations ou deux grandes participations, si vous voulez. Dans les sacrements et dans la grâce sanctifiante. Je crois qu'on peut le dire, en Marie et dans les apôtres. Marie à la croix, vivant le mystère de la croix du Christ, et la nouvelle femme, la nouvelle Ève, elle est la femme par excellence. Et Marie achève et complète ce qui manque à la passion de Jésus, dans son état victimal et dans le mystère de son sacerdoce. Et Marie à la croix est source de fécondité maternelle. Elle coopère avec Jésus. Et à la scène, Jésus a voulu que les apôtres reçoivent ce sacerdoce ministériel, le sacerdoce rattaché au sacrement de l'ordre, qui fait que le prêtre lié à Jésus continue l'œuvre de Jésus et il est père de vie divine en union avec Jésus, en union avec l'Esprit Saint. Vous voyez ces trois sources de fécondité. C'est étonnant de voir ces trois sources de fécondité. C'est lié à la très sainte Trinité, ça ne peut pas être autrement. C'est les trois sources de fécondité par rapport à l'homme et par rapport à l'Église. Une fondamentale liée au Créateur et les deux autres liées au mystère de la très sainte Trinité. Au Fils et à l'Esprit, au Fils lié au Père, le sacerdoce, et Marie, c'est une maternité liée à l'Esprit Saint. Il ne faut jamais séparer, je crois, ces trois aspects qui se tiennent, parce que ça aide à comprendre comment le prêtre doit être conscient de ces grandes luttes contre la fécondité. Je crois que dans les caricatures qu'on a données du sacerdoce, du sacerdoce ministériel, on voit très bien les attaques du démon par rapport à la fécondité. Le prêtre ne voulant plus assumer la responsabilité de père, ne voulant plus qu'on lui dise père, ne voulant plus comprendre que par son sacerdoce ministériel, il est lié à la paternité du Christ à la croix. Il est tout entier dépendant de cette paternité, mais il est lié à cette paternité. Et on peut dire que la fécondité de Marie à la croix, elle aussi a été battue en brèche, et on ne veut pas la regarder. On ne veut plus regarder cette maternité spirituelle qui existe dans l'Église et qui est grande dans l'Église. C'est le mystère de la maternité divine de Marie qui continue chez les contemplatifs, dans la vie monastique, en premier lieu. Et on voit très bien les luttes du démon par rapport à l'alliance fondamentale, l'alliance de la fécondité selon la chair et le sang. Alors c'est dans cette perspective, voyez, que le Concile nous demande, et je crois que si le Concile nous demande d'être très attentifs au caractère propre du sacerdoce royal des fidèles et au caractère propre du sacerdoce ministériel du prêtre, le Concile veut que nous ayons comme une nouvelle intelligence de ce mystère. Vous voyez, chaque fois que Dieu permet des luttes particulières, chaque fois que le Philistin s'élève avec plus de violence, et qu'il fait croire au peuple de Dieu qu'il est battu dans tel ou tel domaine. C'est inutile d'y revenir. Il faut être de son temps. Chaque fois que Dieu permet ces luttes particulièrement violentes, c'est toujours parce que l'Esprit Saint veut nous faire entrer plus profondément dans le mystère. Et nous savons que nous sommes liés d'une façon particulière à ce mystère du sacerdoce de Jésus. Parce que l'évangile de Jean est sans doute, j'en suis persuadé, avec l'épître aux Hébreux, mais il y a longtemps déjà que les exégètes ont montré que l'épître aux Hébreux était comme un lien entre les épîtres de saint Paul, les synoptiques et l'évangile de Jean. C'est très, très sinistre, très intéressant, ça. Je me souviens, quand je faisais mes études, on commençait à le dire. Ça commence à vieillir, c'est pas nouveau. Et ça demeure. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça qui sont demeurées. Mais ça demeure. Et ça m'avait beaucoup frappé. Parce que ça nous fait comprendre comment l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui nous fait comprendre dans toute sa force le sacerdoce du Christ. C'est vraiment la perle, hein, le mystère du sacerdoce du Christ dans l'évangile de saint Jean. Et dans le monde d'aujourd'hui, vu ces attaques, il faut que nous soyons non pas réactionnaires, ce serait complètement idiot, mais il faut qu'on soit contemplatif du sacerdoce du Christ. Il faut que nous entrions dans ce grand mystère du sacerdoce de Jésus par Marie pour le sacerdoce royal des fidèles et directement par Jésus pour le sacerdoce ministériel. C'est important de voir le lien entre ces deux sacerdoces, leur distinction et leur lien. Notre grâce sanctifiante et sacerdotale. Et je crois que nous devons dire notre grâce sanctifiante. C'est un petit problème très délicat, parce que la plupart du temps, on rattache le sacerdoce royal des fidèles au baptême. Ça me gêne toujours à cause de Marie, vous voyez. Et je crois que c'est plus profond, ça va plus loin. Ça n'empêche pas du tout, l'autre affirmation, elle n'est pas fausse du tout, parce qu'ordinairement c'est le baptême qui donne la grâce sanctifiante. Mais j'aime mieux regarder la grâce sanctifiante comme une grâce qui est directement liée à la plénitude de grâce du Christ, et la plénitude de grâce du Christ implique le mystère du sacerdoce. Jésus est médiateur dans l'ordre de la sainteté. Jésus est médiateur dans l'ordre du salut. Il est médiateur dans l'ordre du salut en raison même du mystère de la croix. Et donc, je crois qu'on peut dire que notre grâce habituelle, notre grâce chrétienne, est une grâce sacerdotale. Du reste, ça rejoint exactement ce qui est dit dans l'Apocalypse, ce qui est dit dans l'Épître de saint Pierre, et quelquefois dans l'Ancien Testament aussi. Nous sommes un royaume de prêtres pour le Père. Alors, si nous sommes un royaume de prêtres pour le Père, ceci se rattache directement à la grâce sanctifiante. C'est par la grâce sanctifiante qu'on est un royaume de prêtres. C'est pas par le baptême, au sens fort. La grâce sanctifiante, chrétienne, celle de Marie, qui est la plénitude de la grâce sanctifiante chrétienne, une grâce sanctifiante qui provient du Christ et qui est toute proche de celle de Jésus, va faire que Marie est la première dans ce royaume de prêtres. Jésus est au-delà puisqu'il est Dieu. Il est la tête. Marie, comme dit saint Bernard, est le cou, c'est-à-dire qu'elle est toute proche de la tête. Et elle est celle qui, justement, dans sa plénitude de grâce, va pouvoir vivre du sacerdoce du Christ d'une manière unique. C'est pour ça que chaque fois qu'on diminue le sacerdoce du Christ, ça blesse Marie. Et chaque fois qu'on essaie de creuser plus profondément le sacerdoce du Christ, Marie est heureuse. Parce que c'est le grand secret de sa vie. Le grand secret de sa vie a été de vivre du sacerdoce de Jésus. Et de vivre du sacerdoce de Jésus, pas d'une façon, comme pas la manière d'un théologien, mais la manière d'un petit enfant qui sait qu'il naît de ce sacerdoce. Qui sait qu'il est petit enfant bien-aimé du Père à travers le sacerdoce de Jésus et dans le sacerdoce de Jésus. Et c'est vrai que tout le mystère de la compassion doit nous faire vivre de ce sacerdoce royal, de ce sacerdoce mystique qui permet la complémentarité. Le sacerdoce royal des fidèles permet la complémentarité, c'est-à-dire un achèvement. Marie, dans son cœur de petit enfant du Père, qui a tout reçu de Jésus, Marie est le plérôme du sacerdoce du Christ. Elle est celle qui achève, qui complète. L'état victimal de Jésus et son sacerdoce. Tandis que sacerdoce ministériel n'est pas le plérôme, n'est pas l'achèvement. Il est une grâce donnée gratuitement, comme la grâce sanctifiante, mais une grâce qui donne un pouvoir instrumental à celui qui étant déjà baptisé reçoit ce sacrement. Et le fruit du sacrement d'ordre, c'est de mettre ce caractère, cette marque, par où le baptisé peut achever, peut coopérer au mystère de la croix. C'est-à-dire, peut en réalité, d'une manière instrumentale, et symbolique, réaliser le mystère de l'Eucharistie. Et le mystère de l'Eucharistie qui définit ce pouvoir sacerdotal. Le Saint-Père l'a dit avec beaucoup de netteté. C'est sans doute celui qui l'a dit de la façon la plus nette. Que l'Eucharistie est la raison qui définit le prêtre, qui montre ce qu'il est, qui définit le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce ministériel est ordonné à l'Eucharistie. Il est pour l'Eucharistie, de façon immédiate. Il est pour le corps mystique, mais à travers l'Eucharistie et par l'Eucharistie. Et ceci me semble extrêmement important à souligner. Vous voyez, le prêtre n'est pas premièrement un administrateur. Heureusement. Le prêtre n'est pas premièrement, au sens le prêtre au niveau de son sacerdoce ministériel, n'est pas premièrement quelqu'un qui doit s'occuper des choses temporelles. Il est premièrement lié à l'Eucharistie. Étant lié à l'Eucharistie, il est lié au corps mystique, fruit de l'Eucharistie. Il doit enseigner. Il doit faire la catéchèse. Il doit enseigner le peuple de Dieu. Il doit enseigner ceux et celles qui ont besoin de pénétrer plus avant dans la parole de Dieu, d'avoir une nourriture plus profonde. Le prêtre doit être l'instrument de la miséricorde du Christ par le sacrement de pénitence. Le prêtre doit être celui qui prépare de la manière ultime et dernière paraître devant Dieu, ce sacrement de l'extrême onction. Le prêtre est celui qui est représentant du Christ pour le sacrement de mariage. Donc c'est lui qui va, au nom du Christ, être présent pour bénir ceux qui demandent la grâce du sacrement de mariage. C'est Jésus qui donne le sacrement, et le prêtre est là comme témoin du Christ. Et c'est Jésus qui donne le sacrement en se servant des époux qui disent leur oui, mais c'est le prêtre qui est là témoin. Le prêtre lié à son évêque peut, si l'évêque le permet, si l'évêque lui donne le pouvoir, confirmer. C'est toute l'extension du sacerdoce. Vous voyez combien c'est lié au mystère de l'Eucharistie et tous les fruits de l'Eucharistie. Il doit s'en occuper directement. Mais il doit regarder tout à travers le mystère de l'Eucharistie pour garder un regard qui soit vrai. Et la plénitude du sacerdoce ministériel, ce sera l'évêque qui pourra, par le fait même, consacrer d'autres prêtres. Communiquer au nom du Christ le sacerdoce. Et au-delà, ou plus exactement parmi les évêques, mais premier parmi les évêques, le Saint-Père. Jésus a voulu qu'il y ait un geste particulier pour Pierre. Les 12 ont reçu le même ordre du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Mais Pierre a reçu un ordre spécial. Fais paître mes brebis. par le sacerdoce ministériel, le prêtre entre dans une communion sacramentelle avec Jésus pour tout le peuple de Dieu, en union sacramentelle avec tous les autres prêtres, en union avec l'évêque, en union avec le pape. Il y a comme une exigence d'un don nouveau à l'Église par le sacerdoce. Être plus intimement lié à Jésus pour réaliser son testament d'amour. Réaliser son testament d'amour pour réaliser la scène. Être plus intimement lié à Jésus et entrer davantage dans ses secrets. Le prêtre, c'est celui qui reçoit les secrets du sacerdoce de Jésus pour pouvoir les communiquer, pour pouvoir gouverner l'Église. Tout prêtre gouverne le peuple de Dieu à des niveaux différents, mais il gouverne le peuple de Dieu. Et le Saint-Père gouverne le peuple de Dieu comme prêtre. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire comme évêque. Et il est, comme évêque, il est prêtre. Vous vous souvenez cette parole que le Saint-Père, lui, pouvait dire, quand il était à Paris, au Parc des Princes, « Je suis pape depuis 2 ans, je suis évêque depuis 20 ans, mais ce qui est plus grand, c'est d'être prêtre. » Pour bien faire comprendre que c'est la grâce du sacerdoce qui unit les prêtres à l'évêque et au pape. Et cette grâce du sacerdoce se définit par l'Eucharistie, pas par l'enseignement en premier lieu. Dans l'Église orthodoxe, on le sait très bien, les théologiens ne sont pas des prêtres. Ça peut se faire. Et on comprend très bien. On pourra très bien se faire que dans la communauté Saint-Jean, il y ait des théologiens qui ne soient pas prêtres. Pas pour être semblables aux orthodoxes, qu'on est bien, mais tout simplement parce que, de fait, il faut bien distinguer les deux. Peut se faire que certains aient un don très particulier au point de vue de l'enseignement et qu'il vaut mieux pour telle ou telle raison qu'il ne soit pas prêtre. Puisque le sacerdoce est donné gratuitement par le Christ pour un service dans l'Église. Un service dans l'Église au très très grand sens, hein, c'est-à-dire pour que le mystère de la croix continue d'être présent à travers tous les temps et tous les lieux. Pour que l'heure de Jésus soit toujours actuelle dans l'Église. L'heure du Christ, l'heure du sacerdoce du Christ. Il faut bien comprendre que le sacerdoce ministériel est un sacrement, un mystère qui vient s'ajouter à la grâce sanctifiante pour nous relier plus étroitement à Jésus. Les sacrements font de nous, par le baptême, des membres vivants du Christ. On est relié au tronc pour faire les mêmes gestes que Jésus, au niveau du culte, au niveau de l'Eucharistie, pour faire les mêmes gestes. Pour les faire in persona Christi, selon cette expression si forte, du Concile de Trente, qui est dans saint Thomas, et que le pape reprend tout le temps. In persona Christi. Et le Saint-Père avait dit, il ne faut pas traduire au nom du Christ, c'est beaucoup plus fort. Un ami envoie son ami et il lui dit, tu te présenteras de ma part. Ça, on peut faire ça. Je vous délègue. Délégation. Et la délégation, c'est ça. Vous agirez de ma part. Tandis qu'agir in persona Christi, pas seulement du côté d'une fonction, c'est pas seulement du côté d'une opération, c'est être comme saisi par le Christ. Que Jésus soit présent. Ça regarde la personne. Et pas seulement l'activité et les opérations. C'est pour une présence. Et pour une action liée très intimement à cette personne. Pour une action propre que Jésus seul peut faire. Alors on agit in persona Christi. Alors comprenons bien que cette grâce reçue au moment de l'ordre, du sacrement d'ordre, cette grâce qui permet à un baptisé, puisque seul le baptisé peut recevoir le sacrement d'ordre et normalement le confirmer. Seul le baptisé peut recevoir, au sens rigoureux, seul le baptisé peut recevoir le sacrement d'ordre. Cette grâce du sacrement de l'ordre, c'est un pouvoir instrumental, mais qui s'enracine normalement dans la grâce sanctifiante. Il peut se faire qu'un prêtre qui a reçu validement le sacerdoce n'ait plus la grâce. Le prêtre ayant reçu ce pouvoir sacerdotal ne devient pas par le fait même ipso facto quelqu'un qui ne péchera plus, ou quelqu'un qui ne péchera que d'une façon vénielle. Il peut perdre la grâce et devenir comme un instrument de Jésus opérant à son intention, comprenant qu'il n'agit plus lui-même, qu'il agit avec Jésus et en lui. Mais l'Eucharistie qu'il célèbre à ce moment-là n'est plus pour lui, n'est plus directement pour lui, elle l'est indirectement. Elle est pour les fidèles. Vous voyez donc les deux aspects qu'il faut toujours voir complémentaires. Le sacerdoce ministériel fait qu'on agit in persona Christi sans rien ajouter au Christ. C'est bien évident. Et recevant tout de lui étant investi d'un pouvoir instrumental qui permet au prêtre de dire in persona Christi, ceci est mon corps. Mon corps, pas le corps du Christ. C'est quelque chose qui est extraordinaire de voir ça. Qu'en toute vérité, le prêtre dit, saisi par le Christ, puisqu'il le dit in persona Christi, c'est bien lui qui parle, c'est bien lui qui veut parler, et sa parole, sa volonté est saisie par le Christ. Pour que ce qu'il fait a une dimension qui n'est plus la dimension de l'homme, même de l'homme sanctifié par la grâce, même de l'homme saint qui vit dans la grande intimité avec Jésus. Son geste transcende tout cela. C'est directement Jésus qui agit à travers lui. C'est directement Jésus qui agit à travers lui d'une manière sacramentelle. Alors on ajoute toujours sacramentelle, hein, parce que c'est là le mystère particulier des sacrements. C'est quelque chose de nouveau qui est d'ordre surnaturel, qui provient du Christ, mais qui n'est pas le surnaturel absolu. Le surnaturel absolu, c'est la grâce sanctifiante. Et c'est pour ça que les sacrements sont tout entiers ordonnés à la sainteté de la grâce sanctifiante, à la croissance de la grâce sanctifiante. Ils sont tout entiers ordonnés à cela, ou à redonner la grâce sanctifiante si on l'avait perdue. Mais ils sont vraiment ordonnés à cela. C'est pour ça que le prêtre qui agit in persona Christi est au service du peuple de Dieu. Il agit dans l'unité avec le Christ d'une manière sacramentelle. Mais en même temps, il est totalement au service du peuple de Dieu. Ce n'est pas son œuvre. Ce n'est pas quelque chose qui est à sa taille. C'est à la taille du Christ. Il agit une persona Christi pour laisser le Christ agir parfaitement lui et faire l'œuvre de Jésus pour les chrétiens, pour lui-même, en tant que chrétien. Il est le premier à bénéficier de cette œuvre du Christ au niveau sacramentel, l'Eucharistie. Il en profite le premier, s'il peut. Les sacrements sont pour le prêtre, et le sacrement d'ordre est pour le prêtre. C'est en ce sens-là, vous voyez, que le sacerdoce n'apporte pas par lui-même la sainteté, mais il est un appel impératif à la sainteté. Puisque le prêtre, en tant que baptisé, en tant qu'enfant de Dieu, est le premier qui doit vivre du fruit de son sacerdoce. Je ne dis pas de son sacerdoce, mais du fruit de son sacerdoce. Et ce fruit, c'est l'œuvre du Christ à travers lui. Et le premier à vivre de ce fruit, c'est pour lui, en premier lieu. pour tous ceux que le Christ a mis sur sa route, pour tous ceux qui sont là présents. C'est pour eux tous, serviteurs de la sainteté de l'Église, en tant que prêtre. Tandis que vous ne pouvez pas dire que dans son enseignement, il est serviteur de la sainteté de l'Église. Dans son enseignement, il doit être qu'au second. C'est-à-dire qu'il doit apprendre. Il doit connaître. Mais il le fait aussi avec sa grâce de prêtre. Je crois qu'on peut dire qu'un cours de théologie donné par un prêtre ou un cours de théologie donné par un non-prêtre a une modalité particulière. Aller enseigner, c'est Jésus qui le dit, il est mandaté par l'Église, il est envoyé par l'Église, il est au service de l'Église pour l'enseignement. Et ce serait très important de saisir cette note spéciale. Je crois que c'est une note particulière d'ordre prophétique. Mais prophétique au sens très très grand, pas charismatique du terme, hein, prophétique au sens où le sacerdoce du Christ est royal prophétique. Il y a quelque chose de prophétique dans l'enseignement du prêtre, c'est-à-dire que le prêtre manifeste ce qui est caché. Il montre ce qui est caché, il le manifeste. Il parle d'un mystère qui demeure caché, il le dévoile pour rendre présent ce mystère qui était caché. Alors demandons les uns pour les autres ce très grand amour à l'égard du sacerdoce, ce très grand sens de la paternité sacerdotale dans le cœur de Jésus. Demandons que nous ayons tous ce très grand sens. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce que la très sainte Vierge veut nous donner pour que notre prière soit plus fervente pour nos prêtres. Et à l'occasion de cette ordination, il faut que tous nous prions pour tous ceux qui, dans la communauté Saint-Jean, sont déjà prêtres. Nous ne prions peut-être pas assez pour eux. Alors qu'ils sont nos frères et ils nous sont donnés pour nous aider à notre sanctification, pour que nous puissions devenir des saints. Alors il faut qu'à l'occasion de cette ordination, nous puissions prier les uns pour les autres avec une intensité encore plus grande.
Amen.
que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.